Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast d'actualité sur le football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport, et ce lundi, on va parler encore et toujours de Kylian Mbappé. Sa sortie face à l'AS Monaco a fait beaucoup parler. Elton Mokolo reviendra sur le dossier et on parlera aussi un petit peu du déclin niçois. On ira ensuite en Angleterre retrouver Philippe Auclair pour parler du derby entre Manchester City et Manchester United et parler notamment d'un homme buteur incroyable, Marcus Rashford, mais qui traverse une saison décidément très très compliquée. On ira ensuite en Espagne avec Ana Caro, on parlera d'arbitrage avec cette séquence folle et ce but annulé au Real Madrid dans le temps additionnel, mais on parlera aussi des adversaires espagnols des clubs français cette semaine en Ligue des Champions et en Ligue Europa, à savoir la Real Sociedad et Villarreal. Et on ira enfin en Allemagne retrouver David Lortolari pour parler de Joshua Kimmich. Est-ce l'heure de partir pour le patron du milieu de terrain allemand? On lui posera la question et on comprendra un petit peu mieux les secousses qui secouent le club bavarois. Tour d'Europe est à retrouver toutes les semaines sur vos plateformes d'écoute. Il suffit de taper Eurosport FC pour retrouver l'émission. Vous aurez en bonus le FC Stream Team tous les vendredis. Et si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur eurosport.fr et sur l'application pour retrouver les meilleurs extraits. Voilà, vous connaissez le menu. Alors Tour d'Europe, c'est parti. Et allez, on démarre ce Tour d'Europe avec le débrief de la Ligue 1. On retrouve Elton Mokolo qui a suivi ça attentivement tout le week-end et qui, on va commencer par la fin. Je crois Elton a été impressionné par une équipe lensoise qui est venue infliger une vraie belle défaite à l'Olympique Lyonnais qui était pourtant en plein redressement, 3-0. Il n'y a pas photo finalement entre les deux équipes.
Bonjour Cyril, j'espère que ça va. Effectivement, on a vu un match très probant de Lens, un match de plus à l'extérieur dans une configuration grand match, parce que quand on parle de Lens, on parle d'une équipe qui est capable de gagner à Monaco, une équipe qui est capable de gagner à Marseille, une équipe qui est capable de tenir en échec le PSG. Donc on attendait entre guillemets ce match au sommet entre Lyon qui était sur un renouveau intéressant, ouais, et le RC Lens. Et là, pour le coup, ça a vraiment tourné à l'avantage de Lens. Il n'y a rien à dire quand tu regardes la réalité du match. Bon, même s'il y a eu des situations du côté de l'Olympique Lyonnais, il faut quand même le préciser. Mais sur ces grands matchs, sur cette capacité justement à optimiser tes temps forts, Lens a été supérieur. Donc c'est une victoire qui est très importante pour le RC Lens, qui revient 3 points de Monaco. Mais il faut aussi saluer la régularité de Lens, parce que sur les 19 dernières journées, seule une équipe fait mieux que Lens en Ligue 1, c'est l'étonnant Brest. Donc tout ça pour dire que du côté de Lens, là il y a quand même beaucoup d'optimisme avant d'attaquer le sprint final, où là on est sur un mois de mars qui va être excitant à tout point de vue.
Est-ce que Lens peut être le Lens de la saison passée, à savoir le dauphin du Paris Saint-Germain finalement? On parle beaucoup de Brest, on en a parlé la semaine dernière et l'équipe bretonne est vraiment remarquable. Mais les Lensois, ils ont quand même un sacré effectif, ils ont l'expérience de ces sprints finaux. Et y a quand même quelque chose qui ressort, c'est une montée en puissance de cette équipe lensoise.
Ça aurait été impensable d'y penser au mois de septembre, ouais, quand Lens avait mal démarré sa saison. Mais moi, j'ai le sentiment que Lens a mangé son pain noir durant cette période et qu'aujourd'hui, c'est une probabilité qui devient de plus en plus grande. Je veux dire, par là, tu as 3 points de Monaco pour le podium, tu as 7 points de Brest que tu vas recevoir durant le mois de mars. Donc moi, je me dis, pour peu que Lens continue sur sa lancée, gagne ses fameux grands matchs et qu'il y ait une baisse de forme de Brest, aujourd'hui, la probabilité est importante pour moi du côté du RC Lens, parce que moi, j'ai la conviction, j'ai le sentiment que la dynamique lensoise est telle que aujourd'hui, Lens est un candidat à sa propre succession pour la deuxième place. Ce qui aurait été un peu fou il y a 2 mois est quelque chose de vraiment réalisable.
C'est aussi parce que dans le même temps, Elton, on a des équipes qui sont en train de s'écrouler complètement. Tu parlais de Lens qui avait mangé son pain noir. Nice est en train de le manger actuellement. Il n'a pas fini. En 2024, c'est 5 défaites déjà en Ligue 1 pour les Niçois. 2 petits nuls. Une défaite un peu fâcheuse ce week-end face à Toulouse et l'impression que finalement, cette équipe, elle n'était pas tout à fait taillée pour viser beaucoup plus haut et qu'elle retrouve des standards un peu plus conformes à son vrai niveau, non ?
J'ai écouté attentivement Farioli à la fin du match. Il a bien expliqué qu'ils étaient dans le moment le plus compliqué de la saison. Ouais. Et difficile de lui donner tort quand on voit la dynamique en termes de points. Et plutôt que de parler de perte de points, moi, j'ai parlé de quelque chose qui, pour moi, est beaucoup plus important. C'est la perte d'identité. À quoi joue Nice ? C'est-à-dire que sur la première partie de saison, on avait une équipe qui était bien structurée avec notamment deux axes de travail, c'est-à-dire possession défensive, notamment pour se protéger des fameuses transitions que craint Farioli, et une solidité défensive à toute épreuve. Là, on n'a ni l'un ni l'autre, notamment la solidité défensive. On a vu Toulouse, à partir du moment où ils ont mis un énorme temps fort, Nice n'a pas été en mesure de répondre à ça. Donc pour moi, c'est une problématique doublée, à savoir que tu as la problématique la plus importante de points, mais tu as une problématique aussi importante qui est la problématique de l'identité. À quoi joue Nice ? On attendait Nice sur cette capacité à faire évoluer son logiciel en deuxième partie de saison. Moi, j'avais eu l'occasion de parler avec notamment Sofiane Diop, qui était tout à fait d'accord en disant que, tout en reconnaissant le fait que Nice était une meilleure équipe, était une bien meilleure équipe sur la première partie de saison et qui méritait ses points, il était aussi d'accord sur le fait qu'il fallait faire évoluer le jeu niçois offensivement. Non seulement tu n'arrives pas à faire ça, mais même sur tes points forts, tu es en difficulté. Et ça pose une problématique importante sur le sprint final, notamment pour valider une place européenne. Parce que, autant Cyril, Nice qui ne va pas en Ligue des Champions, on pourrait se dire par rapport au synopsis du début de saison, est-ce que ce serait si grave ? Je n'en suis pas persuadé.
Ouais.
Et par contre, Nice qui n'est pas européen, et là, pour le coup, la probabilité devient de plus en plus importante. Là, ça commencerait à faire jaser.
En même temps, Elton, tu parlais de Sofiane Diop et de la nécessaire transition offensive. Nice a la 16e attaque de Ligue 1 après 24 journées. Est-ce que c'est digne vraiment d'un prétendant à l'Europe et a fortiori à la Ligue des Champions ? Il va falloir qu'il trouve quelque chose pour retrouver la stabilité défensive, tu l'as très bien dit, mais quand même réussir à marquer des buts parce que 23 buts marqués en 24 matchs, c'est juste pas possible pour un prétendant à la C1.
Exactement, c'est pas digne d'un prétendant à la C1 parce que moi je le dis souvent, le but c'est le meilleur entraîneur au monde. Le but c'est le.
C'est vrai que c'est une phrase que tu as déjà dit dans Tour d'Europe plusieurs fois.
Exactement, le but c'est ce qui donne de la consistance à ton travail, ça donne de la valeur à ce que tu fais sur le terrain et c'est ce qui, par extension, te fait mal à l'adversaire. À partir du moment où tu fais pas mal à l'adversaire, l'adversaire grandit en confiance. Et moi, j'ai eu le sentiment que même après le 1-0 précoce de Nice, Toulouse n'était pas non plus affolée. Ouais. Parce qu'ils avaient déjà remonté un score face à Lille. Et ils se sont dit que, ouais, ok, on connaît Nice. Nice, ok, ils ont mis un but, mais c'est pas comme s'ils en mettaient 2-3 par journée. Donc pour moi, c'est la principale difficulté. Et ça tient aussi au fait que tu n'as pas un référent offensif qui se dégage cette saison. Encore plus avec les retours tardifs de Mofi et de Boga qui reviennent de la CAN, et ben forcément c'est quelque chose de plus compliqué et qui a impact notamment la feuille de route offensive de l'OGC Nice. Donc pour moi c'est vraiment une problématique le fait de ne pas avoir ce facteur but en ta faveur.
Alors Elton, on va parler d'une autre équipe qui n'a pas marqué ce week-end, c'est le Paris Saint-Germain, mais qui a beaucoup fait parler. On ne vous fait pas un dessin, on va parler évidemment du cas Kylian Mbappé. Face à Monaco, vendredi, Mbappé était titulaire, mais Mbappé a été sorti à la mi-temps avant de regagner les tribunes dans un espèce de cirque médiatique un peu pathétique, voilà, on va dire les choses. Qu'est-ce que tu as pensé de cette séquence déjà, toi Elton ?
Ah, c'était une séquence qui était ridicule, qui était puérile, qui était grotesque. Parce qu'il était question de quoi ? Il était question d'un joueur qui a remplacé à la pause et qui spontanément a décidé de se doucher. Bon, ça, à la limite, c'est pas grave, mais qui est rentré dans une sorte de d'arrivée façon star du côté de son ancien stade, alors que ses propres joueurs jouaient. Si tu veux, la séquence où t'as Kylian Mbappé qui est avec son portable alors que ses coéquipiers jouent un match important face au 3e de Ligue 1, franchement, c'est pas une image qui l'honore. Donc, pour moi, c'est une situation qui était ridicule. Et je pense que Luis Enrique était vraiment élégant de dire, oui, Bon, ça fait partie du show, je me concentre sur le terrain parce que je pense qu'il aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire par rapport à cette sortie qui était très évitable du côté de Kylian Mbappé.
Tu parlais de Luis Enrique. Est-ce qu'on peut quand même aussi un petit peu lui en vouloir de, voilà, de mettre un peu d'huile sur le feu, que Mbappé fasse pas un bon match, pourquoi pas? C'était déjà le cas face à Rennes avant qu'il le sorte. Là, on a l'impression un peu d'un acharnement presque autour du cas Mbappé et d'une volonté de marquer son autorité alors que c'est pas forcément le meilleur moment pour le faire pour le Paris Saint-Germain.
Après, on ne peut pas enlever au fait que Luis Enrique est l'entraîneur du PSG, c'est-à-dire qu'il fait des choix. Il l'a encore assumé, il l'a assumé publiquement. Et Luis Enrique est cohérent par rapport à sa feuille de route depuis qu'il arrive en début de saison. Quand Luis Enrique parle de 21 titulaires, ça peut sonner comme une formule démagogique, mais Luis Enrique le pense réellement. Mais le problème, c'est qu'avant,
Oui,
il ne
mais
s'est pas arrêté.
il l'a pas appliqué à Mbappé jusqu'à
Exactement.
présent.
C'est là où réside le problème, c'est-à-dire que cette réflexion-là, il ne la poussait pas jusqu'au bout avec le cas Kylian Mbappé, parce que Kylian Mbappé, le match qu'il fait contre Monaco, moi je me souviens d'un match contre Clermont, il n'est pas bon, et ce n'est pas pour autant qu'il sort. Moi je me souviens de ça. Mais maintenant, Luis Enrique, aujourd'hui, bah voilà, il a décidé spontanément que Kylian Mbappé était un joueur parmi d'autres joueurs. Et ça, forcément, c'est une nouveauté pour le PSG, c'est une nouveauté pour son environnement. Et c'est vrai que moi j'ai une question à poser à Luis Enrique. Si mardi soir, face à la Real Sociedad, Kylian Mbappé n'est pas bon, est-ce qu'il sort? C'est-à-dire que
Mais
aujourd'hui, Luis
est-ce
Enrique.
qu'il peut déjà être remplaçant pour ce match-là? Ça paraît inimaginable de poser cette question-là. Mais malgré tout, finalement, si on suit le raisonnement logique de Luis Enrique, c'est une possibilité.
Aujourd'hui, moi, sur le fond, moi, j'entends Luis Enrique, à savoir que pour lui, un joueur, quand bien même ce soit Kylian Mbappé, est capable d'être sorti. Et moi, sur la forme, moi, j'ai envie de dire. Ouais, mais pousse ta réflexion jusqu'au bout, Luis Enrique. Est-ce que tu peux le remplacer à l'occasion d'un match de Ligue des Champions? Est-ce que Kylian Mbappé, sur la dynamique récente, parce que là, pour le coup, on a des échantillons qui sont quand même très importants. Je veux dire, il a été remplaçant contre Nantes, il est sorti en cours de rencontre contre Rennes, et il est sorti à la mi-temps, pour la première fois depuis qu'il est au PSG, sur une décision technique. Il est sorti du côté du PSG. Donc moi, je me dis, sur les 3 derniers matchs, Kylian Mbappé n'est pas bon. Si on voit au bout de la réflexion, Kylian Mbappé ne mérite pas d'être titulaire. Et là, pour le coup, je sais très bien que Luis Enrique va mettre titulaire Kylian Mbappé. Et c'est pour ça que moi, j'ai un peu de mal sur la forme, notamment par rapport au fait que Kylian Mbappé, bah, il est pointé du doigt. Maintenant, sur le fond, à savoir un entraîneur qui décide sportivement de se passer d'un joueur, moi, je peux entendre ça.
Est-ce que Paris pourrait le regretter? Parce qu'on a l'impression que c'est un moment quand même charnière de la saison. Il y a eu cette victoire à l'aller 2-0 face à la Real Sociedad. Mardi, il y a ce déplacement à Anoeta. Si les choses tournent mal, évidemment qu'on se tournera vers Luis Enrique en disant, mais là, tu as mis la crise et tu as mis un peu le feu tout seul à l'institution en faisant ces choix-là qui n'étaient pas forcément nécessaires ou en tout cas qui auraient pu être amenés différemment.
Après, moi, j'évoque les deux parties parce que si Kylian
Oui,
Mbappé est
bien sûr.
bon, la question
Bien
ne se
sûr,
pose
bien
pas.
sûr.
Je veux dire, si Kylian Mbappé ne fait pas seulement un tir à Louis II et un tir qui finit dans les tribunes, ne perd pas un ballon très dangereux juste avant la pause, bah, Luis Enrique ne serait pas dans une démarche de le sortir. Mais c'est vrai que pour répondre à ta question, quand il se passe ça, tu n'as pas forcément besoin d'ennemis. C'est-à-dire que tu es ton propre pompier pyromane. Je veux dire par là. Avant la Real Sociedad, une Real Sociedad qui est vraiment en
Ouais,
difficulté
on en parlera avec
très
Anna
très
tout à l'heure, ouais.
importante, on aurait pensé que le PSG qui arrive avec un 2-0 en sa faveur aurait une préparation sereine et compétitive. Et là, ce n'est pas forcément le cas parce qu'au-delà du cas Kylian Mbappé, on est quand même sur 2 points sur 6 sur les 2 derniers matchs. Donc, il y a l'actualité Kylian Mbappé, Luis Enrique, mais il y a aussi l'actualité sportive du côté du PSG. On n'a pas gagné ces 2 derniers matchs. Et moi, ce n'est pas de nature à me rassurer quand je connais les difficultés du PSG à imposer son plan à l'extérieur et à gagner à l'extérieur, aussi bien en Ligue 1 que en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, on a quand même vu Newcastle, on a vu l'AC Milan et on a vu le dernier match contre Dortmund. Donc, pour moi, ce n'est pas la préparation la plus optimale et je pense que les deux parties auraient gagné à être beaucoup plus intelligent. Mais j'ai quand même un parti pris sur Kylian Mbappé qui aurait gagné à être plus compétitif surtout.
Dernière petite question et je vais me projeter dans le scénario du pire, malheureusement parce que Paris nous a un petit peu habitués à ça ces dernières années quand il s'agissait de la Ligue des Champions. Si d'aventure il y a un tremblement de terre mardi soir et que le PSG venait à être éliminé de la Ligue des Champions, on sait que le club a répété cette saison que c'était une année de transition, qu'il ne fallait pas avoir les mêmes ambitions vis-à-vis de la Ligue des Champions, que Luis Enrique est là pour un projet à plus moyen terme, dirons-nous. Est-ce qu'il y a le risque en cas d'élimination mardi qu'on revive une seconde partie de saison comme celle qu'on a vécue avec Christophe Galtier, à savoir une équipe qui termine championne mais qui finalement ne montre pas grand-chose, si ce n'est beaucoup de dilettantisme finalement?
Bah oui, c'est probable, à partir du moment où on voit un PSG qui est sur le dilettantisme en ce moment. Et le PSG n'est actuellement pas champion de France. Ouais. C'est-à-dire qu'on est déjà tourné vers la Ligue des Champions, il y a l'imbroglio, il y a le cas Kylian Mbappé. Donc moi, je me dis qu'en cas de tremblement de terre, sur cette capacité justement à concerner le groupe, eh ben, pour moi, il y a une inquiétude légitime. Parce que déjà, il faudrait voir qu'est-ce qui va se passer avec Kylian Mbappé maintenant qu'il y a la Ligue des Champions qui serait enlevé, bah, qu'est-ce qui va se passer avec Kylian Mbappé? Est-ce qu'on continuerait de l'aligner? Du côté des autres joueurs offensifs du PSG, est-ce qu'on sera en capacité de reprendre le leadership? Parce que c'est quelque chose qu'on a très peu évoqué, mais quid de l'apport des autres offensifs, ouais, quand Kylian Mbappé n'est pas là? C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un contenu qui est très satisfaisant. Donc oui, c'est une inquiétude qui est légitime, cette démobilisation. À partir du moment où on a un écart conséquent en Ligue 1, on sait qu'on devrait terminer, sauf accident, en championnat de France, qu'on est sur un championnat qui est beaucoup plus court que les années, oui, précédentes. Oui, il y a un risque de démobilisation qui est réel. Mais moi, je suis quand même optimiste. Je pense que le PSG va se qualifier avec autorité du côté de la Real Sociedad.
Eh bien, écoute, réponse mardi soir. Le match sera notamment à suivre sur eurosport.fr en direct commenté. Merci beaucoup, Elton. On va quitter la France et on va aller désormais retrouver l'Angleterre pour parler d'un joueur qui a fait mal au Paris Saint-Germain par le passé, Marcus Rashford. Statu quo en Angleterre, cette semaine on retrouve Philippe Auclair avec beaucoup d'émotions encore ce week-end anglais, et peut-être la plus forte de toutes, c'est la rage de vaincre de Darwin Núñez qui a permis à Liverpool de s'imposer sur le terrain de Nottingham Forest à la 9e minute du temps additionnel. Liverpool garde un point d'avance sur Manchester City, dont on parlera juste après, mais c'est assurément l'image du week-end parce que c'était un scénario de fou, quoi.
Complètement dingue. Et quand on pense aux circonstances dans lesquelles Liverpool doit jouer depuis des semaines maintenant, ouais, avec un effectif, il joue avec un demi-effectif en fait. Là, il y avait quelques joueurs qui sont revenus, et parmi ceux qui sont revenus, il y en a un qui a fait son entrée en jeu, qui s'appelle Darwin Núñez. Et qui en effet, bon, un magnifique coup de tête, hein, c'est absolument superbe, et très cruel, je dois dire, pour Nottingham Forest, qui a été admirable pendant toute cette rencontre. Mais bon, c'est ainsi que les champions se font et se défont. Ils se défont quand ils perdent, quand ils ne prennent pas tous les points, ils peuvent se faire, peut-être dans ce type de match, où franchement, on n'attendait plus Liverpool. C'était la dernière action, et puis bon, la lucidité de McAllister, ouais, la présence si imposante de Darwin Núñez, et puis bon, un coup de tête qu'il place particulièrement bien. Et un crève-cœur, hein, pour les supporters de Forest, mais pour ceux de Liverpool, une explosion de joie absolument incroyable, quoi. C'est normal, 99e minute, au bout du match, avec encore une fois un effectif qui est quand même encore très limité par rapport à ce qu'il sera, on peut l'espérer, dans un mois ou deux. Ouais. Et Liverpool a plus que fait le boulot. Et je dirais que d'un certain côté, même si ça fait de la peine pour Nottingham Forest, qui est une équipe qui est très crâne, comme on disait autrefois, je dois avouer que voir Darwin Núñez être l'homme de la situation est quelque chose qui me satisfait assez. Tu sais que c'est, oui, un joueur pour lequel j'ai beaucoup, beaucoup d'affection. Et qui a été injustement critiqué, pas par ses fans, parce que quand tu vas au match de Liverpool, s'il y a un nom que tu entends scander presque aussi souvent que celui de Mohamed Salah, c'est Darwin, Darwin, Darwin. Et c'est un joueur que tout de suite les fans ont compris de quoi il s'agissait. Ouais. C'est une espèce de personnification du football uruguayen qu'on aime, football des rues.
La gara.
Et Luis Suarez, bon, voilà, c'est ce genre d'esprit. Lucas Torreira également, ancien joueur, ouais, d'Arsenal, qui ont cette attitude. Edinson Cavani, cette extraordinaire attitude sur le terrain. Et en plus, il est loin d'être malhabile. Alors, Le problème, c'est qu'il ne marque pas suffisamment de buts, paraît-il. Je regarde les stats. C'est pour ça que je regardais, là, je t'avais demandé de patienter quelques secondes. Il en est quand même à 14 buts en 38 matchs avec Liverpool, ce qui n'est quand même pas rien. Hein, c'est pas mal. Alors, il n'est pas encore sur la base de ce qu'il était à Benfica, où bon, il emportait tout sur son passage, mais dans un championnat quand même moins relevé que celui d'Angleterre. Et puis là, malgré tout, bon, il est en train, je dirais au fil des semaines, au fil des mois, il devient de plus en plus important pour cette équipe de Liverpool. Klopp sait qu'il peut se reposer sur lui, et c'est quelqu'un qui est partout où passe Darwin, passe le chaos. Chaos, et dans le cas de Nottingham Forest, KO également. Donc, super week-end pour Liverpool. Très honnêtement, d'ailleurs, quand Klopp en parlait après, il disait qu'il avait du mal à croire. Il se pinçait pour croire qu'avec tous les joueurs qui lui manquaient, ils aient pu faire une pareille série et demeurer en tête du championnat d'Angleterre. Mais ils l'ont fait. Et les joueurs commencent à revenir. Et je pense qu'à partir de la semaine prochaine, tu vas voir, on va dire 75% de l'effectif sera en place. Et ça va être un Liverpool qu'il va falloir aller chercher. Et un Liverpool qui, en plus de ça, se prépare à jouer contre Manchester City. Ça va être chouette.
Ça va être chouette parce
Ouais,
qu'effectivement,
ça va être
Manchester
chouette.
City garde le rythme et on va passer au débrief du gros match du week-end. C'était ce derby de Manchester. Victoire 3-1 avec un Phil Foden éblouissant. Donc on a peur de se répéter de semaine en semaine, mais l'envergure qu'a pris ce garçon est assez folle.
C'est
Et
ouais.
ces deux buts sont incroyables dans deux situations différentes. Il y a un pétard de loin magnifique avec une prise d'initiative à saluer. Et une autre petite espace avec une justesse technique assez dingue dans l'enchaînement, quoi.
Ouais, bah, et en jouant à deux positions différentes, parce que
Oui,
le
en plus,
deuxième
ouais.
but, il a été déplacé par Guardiola sur l'aile gauche. Hein, c'est le couteau suisse, on sait, hein, on avait parlé ensemble. Il joue à tous les postes. Il peut jouer à tous les postes. Et c'est intéressant d'ailleurs d'écouter Gary Neville qui faisait le commentaire de cette rencontre pour Sky. Il disait très honnêtement, je vois pas comment Gareth Southgate peut ne pas organiser l'équipe d'Angleterre autour de ce joueur. Alors on dirait il pourrait se servir de Jude Bellingham, mais Jude Bellingham est plutôt une ancre, mais un point d'ancrage. Mais par contre, pour ce qui est de l'animation offensive, ça paraît absolument évident que. Alors que Foden n'a jamais été titulaire
Ouais,
à
tout à fait.
100% avec Gareth Southgate. Hein. Là, je pense quand même que. Bon, Southgate était au match, donc il a vu. Je pense pas qu'il ait découvert grand-chose. Je pense qu'il était au courant que Phil Foden est passé dans une autre dimension à cette saison. Mais tu as raison d'insister sur le contraste entre les deux buts qui montre l'éventail des talents de ce jeune joueur, bon, qui est franchement tout simplement prodigieux.
On a vu aussi Haaland marquer au bout du temps additionnel, mais surtout raté. Alors cette occasion-là, on peut en parler parce que je ne sais pas si on en verra beaucoup comme ça dans la carrière d'Erling
C'est incompréhensible.
Haaland.
Sur le moment, je pense comme tout le monde, j'ai pas compris. J'ai pensé qu'il y avait un problème de télévision, qu'on était passé dans une autre dimension, que c'était un sosie. Enfin, je ne sais pas. Et en fait, quand on regarde à nouveau, on se rend compte que il hésite entre trois choix. C'est-à-dire que c'est pas. Et ça montre pour moi que c'est pas encore un numéro 9 instinctif. En ce sens que n'importe quel numéro 9, je pense à des purs numéros 9, hein, mais peut-être que je pense à un Baptiste Touta, par exemple, dans ce type de. Tu fais une tête plongeante. C'est une telle évidence. Je veux dire, le ballon est parfaitement placé pour ça. Tu as la bonne dynamique. Tu as la bonne course. Et puis lui, non, il veut la Zlataner. Et du coup, bah, le ballon qui est à une hauteur de tête, on va dire. Devient un ballon, tu sais, un petit peu comme la fameuse reprise de volée de Cruyff pour Barcelone, bon, un des buts les plus célèbres de l'histoire du football, où il fait une reprise de volée en allant quasiment avec son pied à 2 mètres du sol. Mais bon, si jamais c'était rentré, c'était super spectaculaire, mais c'était aussi le seul moyen de louper ce but. Je veux dire, il n'y avait pas d'autre moyen de le louper. Il aurait pu. Un ami m'a dit, mais tu sais, si jamais il s'était contenté d'aller tout droit, il aurait marqué avec sa poitrine ou avec
Oui,
son ventre.
exactement. Ouais.
Ou il aurait pu marquer avec son genou. Où il peut marquer avec la tête, mais il ne peut pas marquer avec son pied, quoi, comme ça. Enfin bon, c'est un détail. Il a encore mis son but en fin de rencontre et pour parvenir à un score qui reflétait quand même un petit peu plus la domination écrasante de Man City en seconde période. Première période, United a été pas mal. Hein, ça tenait le coup, mais dès que physiquement ils ont commencé à baisser, ben, on a vu la différence. Ils n'ont pas pu tout simplement combler les espaces comme ils l'avaient fait en première période. Il y a beaucoup de joueurs, franchement, de Manchester United qui ont été à un niveau piteux, voire pitoyable. On mettra pas Onana dans le cas, dans le
Non,
tas.
ouais,
Il fait un match
il
extraordinaire
en a sauvé
et
beaucoup.
sans lui et en plus de ça dans ses relances au pied,
Bah,
etc.
sans lui, il n'y a pas le premier but, je pense, le premier but
Absolument.
de Marcus Rashford.
Oui, qui est un but extraordinaire, mais justement Rashford, faut qu'on en parle parce que Rashford, c'est l'exemple type de ce qui ne va pas à Manchester United en ce moment.
Eh bien, parlons-en. Alors, effectivement, de Marcus Rashford, saison très délicate pour le chouchou d'Old Trafford. On
Ouais,
est
enfin
à.
chouchou.
Ouais, voilà, le statut a peut-être changé, mais on se souvient de la saison passée, il pèse quand même 30 buts et 11 passes
Ouais.
pour la première saison de Ten Hag. On se dit que voilà, c'est lui qui incarne le club, c'est le symbole ultime de ce Manchester
Complètement.
United. Cette saison, c'est 6 buts et 6 passes, et surtout bah, des prestations fantomatiques. Alors, il y a ce but incroyable face à Manchester City ce week-end,
Dingue.
après une passe, un bon travail de Bruno Fernandes, mais pour le reste, ça a été plus que compliqué.
Ça a été. Je ne voudrais pas être trop dur avec lui parce que je sais qu'il n'est pas dans. On dit en anglais, il n'est pas dans un bon endroit.
Ouais.
Hein? Il n'est pas dans un bon moment, comme dirait Carlo Ancelotti. Visiblement, il y a des problèmes. Il a des problèmes psychologiques qui sont liés au foot, hein, au passage. Hein? Je ne parle pas. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui souffre de dépression. Enfin, j'en sais rien, mais je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt lié à son statut au sein de l'équipe, à la façon dont l'équipe fonctionne. Et à son rôle, et également à sa relation avec les fans, dont certains ont perdu de patience avec lui. On lui reproche son langage corporel, qui est vrai parfois un peu limite. On lui reproche par exemple, moi j'ai interviewé Marcus Rashford, c'est assez désarmant, parce qu'il ne te regarde jamais dans les yeux. Et puis tu sens très très bien qu'il a envie d'être ailleurs, que c'est quelqu'un qui est très secret, qui a son quant à soi, qui a son cercle d'amis proches, c'est tout. Il est pas du tout, c'est pas quelqu'un d'extraverti du tout, c'est plutôt l'inverse. Quelqu'un s'est fermé. Et quand ça va pas, et ben il ne sait pas le cacher. Et ça se voit sur le terrain en ce moment. Il a fait publier sur ce site qui s'appelle The Players Tribune un long long texte qui est en fait une espèce d'apologie de lui-même. Alors ces textes-là, bien évidemment, faut les prendre avec des pincettes. Ce ne sont pas les joueurs eux-mêmes qui les écrivent. Ils parlent à un journaliste ou à un écrivain qui ensuite met en scène, met en mots ce qu'on leur a dit et le font de manière un petit peu, je dirais, ils appuient un petit peu trop le trait par moment. Il y a un côté un petit peu, je veux être artiste, je veux paraître un télo qui parfois c'est désagréable. Mais malgré tout, au cœur de ce texte était malgré tout ce sentiment de frustration, d'être incompris, entre guillemets. Que les gens ne sont pas à sa place, que pour lui, Manchester United, c'est tout. Il raconte comment, quand il était gamin, il fallait qu'il prenne trois bus pour aller au centre d'entraînement, que souvent, il n'avait pas d'argent pour s'acheter quoi que ce soit, que pour lui, c'était un rêve de gosse de jouer contre Manchester City, que c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il avait eu, lors son premier derby, je crois, mancunien, ce tacle épouvantable sur James Milner, qui est pourtant un joueur qu'il aime beaucoup, mais c'est parce que c'était le fan qui était sur le terrain et qu'il essayait de désapprendre à être un fan pour pouvoir mieux jouer dans ce type de situation. Mais en ce moment, ce qu'on voit, c'est un Marcus Rashford qui est tout simplement dans un environnement qui ne lui convient pas. Et il y en a beaucoup d'autres comme ça à Manchester United. Quand tu regardes un petit peu les prestations des joueurs de Manchester United contre City, Garnacho, ça a été catastrophique. Mais je dis bien, mais catastrophique. Comment il a duré le temps qu'il a duré, je ne sais pas. Bruno Fernandes, bon, je veux bien, il a une bonne passe, mais le reste du temps, également le langage corporel, mon Dieu, catastrophique. En fait, Onana, oui, Raphaël Varane fait un bon match. Lindelof s'accroche comme il peut, dans un rôle d'arrière gauche puis d'arrière central. Scott McTominay fait le boulot, mais les autres, c'est l'animation offensive est quasiment. Maynou, le petit jeune également, ne démérite absolument pas. Mais Rashford, lui, c'est l'exemple type, à savoir qu'il marque ce but fantastique, qui te rappelle que tu as affaire à un joueur qui a un talent immense, et puis le reste du match, c'est des passes directement en touche, des ballons, quasiment tous les duels perdus, des passes adressées dans la profondeur où il met pas vraiment le turbo pour aller chercher le ballon, deux fois, ça c'est impardonnable, et ça les fans le sentent tout de suite. Et c'est comme ça que tu te mets des fans à dos. Et je crois qu'il est pas bien, et il a besoin d'un changement d'air.
Mais
Oui, alors, est-ce que.
ça a l'air paradoxal, Philippe, puisque tu nous dis
Ouais.
que c'est le fan de Manchester
Ah,
United qu'il vit
complètement.
à travers Manchester United. Mais c'est ce qu'expliquait aussi Rio Ferdinand pour TNT Sport, hein, c'est que on sent que son body language montre qu'il est malheureux d'être là. Est-ce que Rashford doit quitter Manchester United tout simplement pour redevenir celui qu'il était auparavant, ou est-ce qu'il y a la possibilité que, dans ce contexte actuel, il puisse retrouver des couleurs?
Alors, il les avait retrouvés l'année dernière. C'est ça que je
Ouais.
serais tenté de dire, c'est qu'il a déjà eu ces phases où il était beaucoup, beaucoup moins bien. La saison 2021-22, c'est une saison à oublier pour
Oui,
lui.
tout à fait.
Hein, c'est catastrophique. Mais la saison suivante, il se reprend et en fait, il est, comme tu l'as rappelé, il est le joueur peut-être sur lequel Ten Hag se repose le plus pour permettre à Manchester United de retrouver la Ligue des Champions. Et là, quand tu te dis. Il est encore jeune, il a quoi? Il a 27-28 ans maintenant, Marcus Rashford, donc il a encore pas mal de temps devant lui. Tu te dis, bon, peut-être que c'est une de ces saisons dans lesquelles c'est un creux. C'est une saison quand même très bizarre pour Manchester United qui a attendu la passation de pouvoir entre les Glazers et Radcliffe, en tout cas pour ce qui est des décisions liées au football. Ça y est, c'est fait. Ils n'ont pas pu véritablement investir sur le marché des transferts. Ils ont complètement loupé leur mercato estival. Ils n'ont pas pu se libérer des joueurs dont ils voulaient se libérer. On en a déjà parlé. Donc c'est un club que, comme le disait Radcliffe lui-même, le problème c'est qu'il y a un environnement qui fonctionne pas. Donc soit tu changes l'environnement au club, mais ça va pas se faire en un jour. Soit tu changes d'environnement. Et c'est pour ça que moi, quand j'entends que le PSG est intéressé à faire venir Marcus Rashford, si Kylian Mbappé part au Real Madrid ou à Liverpool, si Kylian Mbappé s'en va, ce qui est probable, mais je dis, mais allez-y les gars. Allez-y les gars. Et pas seulement parce que vous avez le souvenir du Rashford qui était tellement calme, le fameux penalty tiré contre le PSG. C'est un joueur qui a un talent mais extraordinaire. Physiquement, c'est impressionnant, il a de la rapidité, il a touché de balle, finition. C'est pas un numéro 9
Ouais, non,
naturel,
bien
hein.
sûr.
On le sait. C'est plutôt un joueur de couloir qui va se replacer dans l'axe ou quelque chose comme ça. Mais c'est un joueur qui peut faire la différence. C'est un joueur énorme, qui a un énorme talent. Et à mon avis, quiconque, parce que mine de rien, son contrat avec Manchester United arrive à expiration dans pas très longtemps le contrat actuel. Je crois que c'est encore 1 an et demi ou 1 an et 4 mois à couvrir. Donc ça veut dire que peut-être il ne sera pas aussi cher que ce que l'on
Ouais.
peut penser. Puis si tu vends Kylian Mbappé, de toute façon, je
Oui,
pense
il y a
qu'il
de quoi faire.
y a de quoi
Mais
faire.
est-ce que du
Mais
coup,
c'est pour ça.
on est d'accord que là, on entérine le fait que Marcus Rashford ne sera pas la figure de proue du nouveau projet imaginé par Radcliffe et ne sera pas la star qu'on pensait au milieu d'un Manchester United renaissant.
Je ne sais pas s'il a le tempérament pour être ce
D'accord.
genre de joueur.
D'accord.
Je crois que techniquement, physiquement, sportivement, il a toutes les qualités pour l'être. Et puis dans son histoire personnelle, c'est un vrai joueur de Manchester United. Il est United through and through. Donc dans un monde idéal, c'est ce que tu voudrais. Tu voudrais Marcus Rashford comme étant son fer de lance. Mais quand tu vois son état mental et psychologique actuel, et que tu vois la prestation qu'on a vue dans un derby comme celui d'hier, tu te poses des questions malgré tout. Tu te dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors est-ce que c'est lié à l'entraîneur? Je ne suis pas certain. Ça se passait très bien avec lui l'année dernière. Est-ce que c'est lié à cet environnement bizarre de Manchester United? Parce que je dirais, c'est peut-être ce qu'on peut conclure, c'est le fait que ce vestiaire de Manchester United, c'est quand même un petit peu l'effet kryptonite, hein. À savoir que quiconque tu mets dans ce vestiaire semble perdre une partie de ses moyens. Au bout d'un certain temps, parfois ça prend un peu plus de temps, mais au bout du compte, c'est toujours comme ça. Regarde ce qui est arrivé à Anthony Martial,
Il y en a
par
beaucoup,
exemple.
la liste est très longue hein, pour le coup.
La liste, mais même Bruno Fernandes, qui fait une saison exceptionnelle, une autre saison très bonne, et puis ça coince. Bon, donc. Et c'est pas le talent qui manque, hein. C'est un petit peu, je dirais, c'est Rashford et Garnacho. C'est le Garnacho qui fait la plus belle reprise de volée ou ciseau retourné de la saison de première ligne. Et puis à côté de ça, donne l'impression d'avoir 14 ans sur le terrain quand tu le vois face aux joueurs de Manchester City. Et Rashford qui, lui, encore une fois, fait un match avec un déchet absolument invraisemblable pour un joueur de ses qualités techniques et athlétiques. Enfin bon, il y a encore du boulot à faire, monsieur Radcliffe, hein, pour retrouver, faire descendre Manchester City et Liverpool de leur perchoir, comme vous le
J'ai
dites.
l'impression, effectivement, j'ai l'impression. Alors, la magie de Tour d'Europe, c'est qu'on a un réalisateur aux manettes qui s'appelle Adrien Hio, qui est aussi fact-checker, qui a été
Oui.
vérifié. Rashford a prolongé récemment jusqu'en 2028, mais ça ne veut pas
Ah.
dire qu'il ne sera pas sur le marché l'été prochain, puisque vous le savez, si nouveau propriétaire arrive, il fait un petit peu ce qu'il veut sur le premier mercato, normalement, et donc potentiellement Rashford peut être disponible.
Ah ben dans ce cas-là, ça veut dire que tu le vends pour beaucoup plus cher et que
Voilà,
ça te
mais.
permet également de contourner le fermeté financier, donc
Exactement. Et
de
puis,
rester
ça
dans les clous.
n'empêchera pas Paris de dépenser de l'argent
Non.
pour attirer des joueurs. Merci beaucoup, Philippe. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine.
Avec grand plaisir.
Salut. Nous voici donc en Espagne pour évoquer un week-end très chargé en polémique pour changer. On accueille Anna Caro, notre spécialiste Liga, qui a vécu un samedi soir assez dingue avec cette fin de match à Mestalla entre Valence et le Real Madrid. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on vous conseille de regarder les images, mais on va vous le résumer ici. Le Real Madrid pousse pour marquer le but de la victoire. Sur un corner, il y a un deuxième ballon. Il y a un centre et Bellingham vient marquer de la tête, sauf qu'au moment du centre, l'arbitre de la rencontre siffle la fin du match et donc le but est refusé et ça se termine sur un nul de partout. On en pense quoi déjà, Anna, de cette polémique logique finalement?
Mais si on regarde en fait sur l'ensemble du match, il y a énormément d'erreurs arbitrales parce qu'en fait l'arbitre a fait exactement la même chose contre Valence au moment du coup de sifflet de la mi-temps. Donc Sergi Canos qui avait réussi à dribbler Dani Carvajal qui d'ailleurs fait un très mauvais match et filait seul au but et à ce moment-là déjà Ril Manzano avait sifflé la mi-temps. Donc évidemment déjà les Valenciens étaient très énervés. Donc il s'est passé exactement la même chose finalement sur le coup de sifflet final. Alors est-ce que l'arbitre a voulu compenser? Bah, c'est difficile de savoir finalement. Ouais. Mais en fait ça montre toutes les lacunes qu'il y a au niveau de l'arbitrage en Espagne. C'est des débats qui sont constants, quasiment chaque week-end on a des polémiques d'arbitrage. Alors là ça concerne le Real Madrid donc on en parle beaucoup
plus,
c'est en une de tous les journaux, en tout cas les journaux madrilènes, etc. Mais si on regarde sur chaque week-end, il y a tout le temps des erreurs d'arbitrage. Par exemple, le Celta de Vigo, je pense que s'ils faisaient une liste et d'ici la fin de saison, ils auraient une belle page à 4, quoi. Donc c'est juste une symbolique en fait de tous les problèmes d'arbitrage qu'il y a en Espagne. Là, ça tombe sur le Real Madrid, donc on en parle, mais c'est un problème global. Et ce qui est dommage en plus, c'est que ça arrive à Ril Manzano, qui est censé être un des meilleurs arbitres du championnat d'Espagne. Donc voilà, ça montre aussi tout le problème qu'il y a derrière tout ça, parce que si ça arrive à un des meilleurs, c'est que derrière, ça est encore plus compliqué.
Mais est-ce qu'on a des pistes d'explication sur ce niveau arbitral qui interroge, dirons-nous?
En fait, c'est à peu près la même chose que ce qui se passe en France, c'est que les instances se tirent un peu dans les pattes et qu'on a la Liga qui n'est pas contente de ce que fait la Refe, donc du coup la fédération qui gère l'arbitrage. Alors c'est un peu un duel de pouvoir finalement. Là, cette saison, la fédération espagnole a dit qu'ils allaient donner les sonores des communications VAR pour justifier des fois de certaines décisions, des décisions qui sont pas toujours explicables malgré ces audios-là. Là, en l'occurrence, on n'avait pas d'audio parce que quand on siffle la fin d'un match, il n'y a plus de VAR, hein, c'est fini. Donc c'est ce problème-là avec le Real Madrid en plus qui, de son côté, lui, a une autre politique pour la VAR, par exemple, et qui pousse depuis des années pour mettre son logiciel de VAR en Liga. Ça se passe pas comme prévu, donc évidemment c'est pour ça que le Real Madrid, dès qu'ils ont l'opportunité de tirer sur l'arbitrage, ils s'en privent pas. Ils ont leur chaîne personnelle, la chaîne du club Real Madrid TV, qui tous les week-ends vient faire pression sur l'arbitre qui va arbitrer la future rencontre du Real Madrid. Donc en fait c'est vraiment un jeu de pouvoir et au final c'est l'arbitrage qui est perdant parce que les arbitres sur le terrain ont des consignes parfois différentes, ont parfois des retours comme ça, énormément de pression aussi sur les épaules, et au final ça profite à personne parce qu'on se retrouve avec ce genre de match où le jeu en lui-même est lésé parce que peut-être qu'il y aurait eu 3-1 pour Valence à la pause, et dans ce cas-là le score était totalement différent. Peut-être que ce but aurait dû être validé, enfin il aurait dû même être validé si l'arbitre avait bien senti le jeu, mais au final, on ne sait pas et ça fausse les résultats. Et à la fin, en plus, on se retrouve souvent avec des comptes, eux, gérés par des anciens arbitres, des comptes Twitter gérés par des anciens arbitres qui font les comptes et qui disent « Regardez, avec l'intervention de la VAR, tel club a gagné tant de points, tel club a perdu tant de points. » Et par exemple, un club comme Almeria, qui est dernier du championnat, a perdu beaucoup de points sur des buts refusés pour des choses très litigieuses, et on se rappelle justement de la défaite qu'ils avaient encaissée à Bernabéu contre le Real Madrid. Et là, la presse madrilène parlait beaucoup moins d'arbitrage.
Et est-ce que, parce que ça fait plusieurs fois que tu viens dans Tour d'Europe et que tu nous parles des institutions espagnoles qui ne poussent pas dans le même sens, est-ce que sur ce sujet-là, il peut y avoir à un moment une certaine concorde qui se crée? Et c'est pareil pour le football féminin espagnol avec cette équipe incroyable, mais On a l'impression qu'à un moment, il doit y avoir une prise de conscience. Elle est possible en Espagne où ça avantage un peu aussi tout le monde, ce statu quo où finalement chaque week-end, ça fait vendre parce qu'il y a de la polémique. Est-ce qu'on est dans un système qui est encouragé ou dans un système qu'on a envie malgré tout de réformer ?
Pour l'instant, c'est très compliqué parce qu'on a une fédération espagnole qui est assez faible, hein, parce que Luis Rubiales, du coup, est parti dans l'affaire. C'est toujours un président intérimaire à la tête de la fédération. Il y a des élections qui doivent se faire bientôt, mais c'est les cadres qui sont à la tête de la fédération. Pour l'instant, c'est les mêmes que ceux qui étaient là sous l'ère Rubiales, donc les mêmes qui étaient déjà en conflit avec la Liga, avec Florentino Pérez. Donc c'est difficile de voir pour l'instant même une tête émerger et qui pourrait prendre le contrôle un peu de cette fédération et dire bon, maintenant on arrête les bêtises et on se met tous ensemble pour réfléchir et tirer le football espagnol vers le haut. Et pour l'instant, ça paraît très compliqué. Dans un monde où Florentino Pérez, lui, a son modèle de VAR, veut le promouvoir et veut, entre guillemets, avoir une certaine mainmise sur l'arbitrage. On parle d'un point de vue extérieur, évidemment pas pour contrôler les matchs, etc. Mais, et que Laporta marche plutôt dans les pas de ce que fait aussi Florentino Pérez. Et on a d'autres clubs après derrière, comme du coup ce qu'on a évoqué, le Celta, l'Almeria, etc., qui eux sont souvent lésés par l'arbitrage, mais ont très peu de pouvoir.
Ouais.
Donc même lors des réunions, etc., c'est pas leur voix qu'on va aller entendre, c'est pas leur voix qu'on va écouter. Pour l'instant, ça paraît très compliqué de voir un vrai changement, d'autant qu'en plus on a toujours ce problème avec Javier Tebas qui est à la tête de la Liga, qui ne s'entend pas avec la moitié des présidents des différents clubs, qui c'est un peu le jour et la nuit avec Florentino Pérez. Un coup je t'aime, un coup je t'aime pas. Laporta, c'est un peu pareil. Donc pour l'instant, on a beaucoup de figures qui s'entendent pas et on a une fédération qui est pas capable de un peu remettre l'église au milieu du village et qui est capable de dire maintenant on essaye de progresser ensemble. Donc ça paraît compliqué et il faut savoir que ce que tu disais sur le football féminin, c'est le même problème chez les arbitres dans le football féminin.
Okay.
Et il y a pour l'instant pas de solution parce que c'est le même problème. Vu que la fédération, elle, c'est un peu l'inverse, c'est la fédération qui tire un peu dans les jambes du championnat féminin espagnol, et du coup c'est les arbitres encore qui trinquent à la fin.
C'est un super panorama que tu nous dresses là du football espagnol, c'est rassurant pour l'avenir. On va parler un petit peu sportif maintenant, Anna, puisque c'est une semaine importante pour le foot français, mais aussi pour le foot espagnol, puisque il y a deux duels franco-espagnols. D'abord en Ligue des Champions avec ce match au retour Real Sociedad Paris Saint-Germain, on se souvient du match aller, une Real Sociedad décimée qui n'avait pas proposé un très très grand spectacle au Parc des Princes. Est-ce qu'il faut s'attendre à une revanche et à un exploit de la part de la Real Sociedad ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que le match va se dérouler dans une ambiance de fou, hein, parce que les ambiances, les grands matchs à Anoeta, c'est une ambiance pas loin d'être inexplicable.
Ah ouais.
Donc déjà, on va avoir ce public qui va pousser à fond. La dynamique là, de la Real Sociedad, elle est toujours très mauvaise.
Ouais.
Il y a toujours beaucoup de mal à marquer des buts, parce que générer des occasions, ça va. C'est toujours le même problème. Après ce week-end, la Real a fait énormément tourner. Parce que vu qu'ils ont des cadres qui sont de retour, mais qui n'ont pas forcément beaucoup de rythme, l'entraîneur Imanol Alguacil, lui, il a voulu plutôt reposer ces cadres-là. Il en a fait rentrer certains, il en a fait jouer certains aussi. Je pense à Zubeldia, par exemple, derrière. Mais son but, c'est vraiment qu'ils arrivent frais pour le match contre le PSG. Et cette même équipe, donc avec beaucoup de jeunes joueurs qui s'étaient imposés il y a quelques semaines de cela contre le Celta de Vigo, là, a perdu contre Séville. Mais il faut remettre un peu dans son contexte. Séville, actuellement, vit sans doute la meilleure période de sa saison, alors qu'ils étaient au fond du trou en début de saison. Ils reviennent bien, ils ont gagné 3-2. Finalement, c'est pas une large victoire.
Ouais, tout à fait.
Et en face, donc, il y avait énormément de très jeunes sur le terrain. Par exemple, je pense à Aramburu, qui était titulaire en latéral droit. Bon, c'est pas un jeune qui, en tout cas, au moment où, à l'instant présent, devrait même pour plus tard s'aligner comme un des titulaires phares de l'équipe. C'est des joueurs, certains, qui sont vraiment remplaçants et qui n'ont pas vocation à exploser plus tard.
J'aimerais qu'on revienne sur l'ambiance d'Anoeta, parce que tu nous as dit que c'est inexplicable. On a vu beaucoup cette saison sur le compte de la Champions League, qui est un compte qui relaye des images très fréquemment, une ambiance de dingue à Anoeta, un stade qui tremble presque avec des gens qui sautent. Est-ce que c'est aussi fou, et est-ce que le PSG doit s'attendre à une ambiance aussi folle mardi soir?
Ah, c'est certain, parce que en plus les places se sont vendues très très chères, donc le stade sera plein, il y aura énormément d'abonnés, et c'est vraiment le rendez-vous, enfin en tout cas même Emmanuel Alguacil lui-même l'a préparé en tant que tel, parce que il a décidé finalement presque de lâcher un peu le championnat pour vivre à fond cette épopée en Coupe d'Europe. C'est un club qui n'a pas connu cette phase finale de Ligue des Champions depuis 10 ans, donc il y en a pour qui ça va être la première au stade, la première qui vont voir un match, un huitième de finale de Ligue des Champions à Anoeta. Donc oui, ce sera une ambiance folle, et on a vu parfois cette ambiance folle réussir à porter la Real Sociedad, surtout que voilà ce qu'on disait, la Real Sociedad récupère des cadres.
Ouais.
Donc par exemple, un Mikel Oyarzabal va parfaitement savoir quand aller chercher le public, si jamais il y en a besoin. Et puis le score, finalement, même si c'est 2-0, ça reste un score qui est rattrapable.
Ouais.
Et en tout cas, tous les joueurs le disent et y croient. Donc s'ils arrivent à emmener tout le monde avec eux, on peut se dire que l'exploit est possible. Après, ça reste quand même compliqué quand on part avec 2 buts de retard.
C'est sûr. Non, mais on va s'attendre donc à une soirée bouillonnante du côté d'Anoeta mardi soir. Autre équipe qui affronte un club français, c'est Villarreal. À la tête de ce Villarreal, un certain Marcelino qui va retrouver le Vélodrome jeudi. Peut-être une question déjà. Marcelino a donc retrouvé la Liga. Ça marche plutôt bien avec son Villarreal jusqu'à présent. Son passage à l'Olympique de Marseille, c'est comme s'il n'avait jamais existé aux yeux des médias espagnols.
C'est surtout à ses yeux,
ouais, aussi
yeux
oui.
De Marcelino. Il a dit, lui, en conférence de presse, que c'était un match comme un autre, qu'il allait le préparer comme un match normal et que rien n'allait changer de tout ça. Donc c'est assez, assez étonnant, surtout que rien à voir, mais on a appris ce matin que la Villarreal était touchée par une épidémie, donc une espèce de gastro qui frappe tout l'effectif, alors que hier cette même équipe s'est imposée 5-1 contre Grenade. Donc ils ont une préparation de match un peu chaotique, mais on peut s'imaginer que Marcelino lui a bien préparé son match, parce que même s'il dit que c'est un match comme un autre, c'est quand même un retour dans un Vélodrome qui l'a sifflé, un Vélodrome qui n'a pas été vraiment très très sympa avec lui. Et lui surtout arrive avec son équipe au meilleur moment, parce que là Villarreal ça marche bien, l'équipe fonctionne bien, mais ça a quand même été très dur ces dernières semaines. Il y avait des cadres qui étaient absents, d'autres qui étaient vraiment pas au niveau, et là enfin il a cette victoire 5-1 contre Granada, c'est un gros boost de confiance. Mais on est un peu comme dans la situation de l'OM en face, qui pareil a gagné largement ce week-end, et c'est une victoire qui arrive au bon moment. Alors là, on a deux équipes qui arrivent avec un max de confiance avant un match de Ligue Europa. Ça va être très intéressant à voir, savoir qui va profiter davantage de ça. Villarreal, en Coupe d'Europe, c'est une équipe qui est plutôt assez défensive et qui défend très bien, parce que c'est un bloc qui est extrêmement compact. C'est ce que sait faire de mieux Marcelino, presque. Et c'est ce qu'a su faire aussi l'équipe de Villarreal quand ils ont joué en Ligue des Champions avec Emery. Donc ça va être difficile pour l'OM. Et même si c'est Marcelino en face, on a vu qu'il y a des joueurs de l'OM qui ont quand même hâte aussi d'affronter Marcelino, qui n'avaient pas gardé des très bons souvenirs.
J'ai l'impression aussi. Peut-être une question sur Marcelino, parce qu'effectivement, il a reparlé plusieurs fois de son passage à l'OM. Une longue interview, notamment à l'équipe, où il expliquait que c'était pas possible d'avoir ce genre de comportement en référence à la réunion avec les fans et Pablo Longoria. Est-ce qu'on a des indices, ou en tout cas une idée de ce qu'il pense du fait que Pablo Longoria, finalement, est encore à la tête de l'Olympique de Marseille, alors qu'au départ, les deux devaient partir et qu'il n'y a que Marcelino qui a été victime de ce grand changement?
Alors pour l'instant, il botte beaucoup en touche sur cette question. Marcelino, ce n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de cracher quand il est au club.
Okay.
Par contre, on peut s'attendre à ce que si un jour il saute de Villarreal, il dise ce qu'il pensait de ce qui s'est passé à Marseille, parce que c'est quelqu'un qui l'a déjà fait lors de certains passages, notamment son premier passage à Villarreal. Donc il pourra peut-être régler ses comptes. Pour l'instant, il se concentre vraiment sur ce qui se passe à Villarreal. Et puis Villarreal, c'est un cadre qui est totalement différent de ce qu'il a pu connaître à Marseille. C'est un village qui est très calme.
Ouais, bien sûr.
Les supporters sont beaucoup moins virulents que ceux de l'OM. Et je pense que pour l'instant, il profite un peu de ce calme-là aussi. Et il a un groupe qui est beaucoup plus expérimenté que celui de l'OM, notamment en Coupe d'Europe. Donc ça lui offre quand même des garanties sans doute supplémentaires par rapport à ce qu'il avait à Marseille. Alors qu'est-ce qu'il pensait lui de l'effectif qu'il avait à Marseille? C'est difficile de savoir, mais on l'a vu, le début de saison de l'OM a quand même, post-Marcelino, a montré aussi certaines lacunes. Et je pense que lui, d'un côté, il doit un peu s'en réjouir aussi de voir que c'était pas si facile que ça de diriger l'Olympique de Marseille.
Et ben, revanche attendue donc jeudi en Ligue Europa. Merci beaucoup, Anna. On suivra tout ça et on parlera encore de Liga dans les semaines qui viennent. Et nous, on va quitter l'Espagne pour rejoindre l'Allemagne. Et allez, on termine ce tour d'Europe par un détour par l'Allemagne. On retrouve David Lortolari qui, une fois n'est pas coutume cette saison, parce que c'est quand même un nom qu'on a prononcé beaucoup de fois, va commencer son intervention par parler de Serhou Guirassy.
Oui, c'est impressionnant ce que fait le VfB Stuttgart de Sébastien Hoeneß, le jeune entraîneur de cette équipe cette saison. C'est la sensation en dehors de Leverkusen qui est devant. Et qu'on doit saluer évidemment chaque week-end pour ses victoires. Mais VfB Stuttgart fait fort cette saison. Et on s'imaginait au début de la saison, à l'automne dernier, que Serhou Guirassy était le monsieur plus, la seule vraie valeur ajoutée de cette équipe de Stuttgart. Il était très fort sur le classement des buteurs. Puis il s'est absenté pour blessure. Stuttgart a continué à performer et on s'est dit, bah non, en fait, il y a une vraie équipe. Puis Serhou Guirassy est revenu après sa blessure, et il a recommencé à marquer des buts. Il est passé au-dessus de la vingtaine de buts maintenant, ce qui, après 24 journées, quand même a une grosse signification. Il faut lui tirer notre chapeau, parce que ses buts sont souvent spectaculaires, sont souvent marqués d'une grande technique. Et derrière Harry Kane, Cyril, qui continue de faire cavalier seul en tête du classement des buteurs, Serhou Guirassy est l'attaquant révélation cette saison en Bundesliga. S'il continue comme ça jusqu'à la fin du printemps, il va passer les 25 buts et ce sera une énorme performance pour lui. Stuttgart est devenu presque une menace même pour le Bayern à la deuxième place du classement et il le doit largement à Serhou Guirassy.
Alors il y a une autre menace peut-être plus pressante pour le Bayern Munich, David, c'est une possible sortie de route précoce en huitième de finale de Ligue des Champions, puisque ce mardi, le Bayern affronte la Lazio. On se souvient du match aller qui avait un petit peu causé la perte de Thomas Tuchel, finalement, et cette défaite à Rome 1-0. Au match retour, voilà, tous les médias allemands sont clairs. C'est quitte ou double pour Thomas Tuchel. Si le Bayern venait à être éliminé, il ne serait plus l'entraîneur du club bavarois.
Voilà, les sources concordent et alors ça contredit un peu ce que les dirigeants du Bayern nous ont indiqué, c'est-à-dire M. Dresden, le président, a dit il y a quelque temps, on s'est mis d'accord avec Thomas Tuchel de manière limpide et calme, nous séparerons nos destinées en fin de saison, à la fin de cette saison, et Thomas Tuchel va terminer la saison. Sauf que dans des clubs comme ça, vous comprenez bien que s'il y a 3-4 défaites qui sont comprise dans une période courte, l'entraîneur est forcément la première personne menacée. Et c'est le cas pour Thomas Tuchel. Et pour des raisons assez claires, en fait, c'est que si ça ne tourne pas sportivement, eh bien, les rares objectifs qui peuvent rester en cette fin de saison disparaissent. Tuchel n'a pas la main sur son effectif, a perdu le contact avec ses joueurs, pas tous. Par exemple, Manuel Neuer, le capitaine, le soutient toujours, mais on voit bien qu'il y a une incompréhension. Et le deuxième but qui a été marqué par Fribourg, le 2-2 ce week-end, ouais, résultat décevant pour le Bayern, a montré que, encore une fois, les joueurs ne faisaient pas le maximum pour Thomas Tuchel. Souvenez-vous un petit peu de cette action. On est dans la surface, le Bayern a fait le nécessaire pour reprendre l'avantage. Il avait été mené... Il avait égalisé et il avait pris l'avantage à 2-1. Et on est dans la surface bavaroise, il y a une touche pour Fribourg. Et ben, c'est très surprenant, mais les joueurs de défense ont un comportement dilettante. Et Fribourg égalise. Et puis là, les analyses après le match commencent à se dire, mais il y a vraiment, vraiment un problème avec cette équipe. Et Thomas Tuchel n'arrive pas à concerner ses joueurs pour ne serait-ce que conserver un résultat face à une équipe bonne, certes, mais qui n'est ni Manchester City ni le Real Madrid. Et du coup, les dirigeants ont vu ça aussi depuis les tribunes et ont bien compris qu'avec Thomas Tuchel cette saison, décidément, on n'allait nulle part. Il a évidemment ce crédit que, et c'est tout à fait possible, si on s'impose à l'Allianz Arena ce mardi soir contre la Lazio, la route va se poursuivre en Ligue des Champions et Thomas Tuchel pourra donc continuer son aventure à la tête de cette équipe du Bayern. D'ailleurs, Thomas Müller l'a dit dans sa newsletter ce week-end, c'est tout à fait faisable. Mais, encore une fois, il y a cette incompréhension et il y a cette impasse. Et on a la sensation que même si l'effectif est bon en qualité, Et même s'il peut battre la Lazio, on a la sensation que ben, les joueurs sont capables de piéger leur entraîneur aujourd'hui. Et ça, c'est très dangereux, c'est très mauvais. Et contre la Lazio, il va falloir évidemment défendre bien mieux qu'on ne l'a fait contre Fribourg. C'est un match un peu piège. Thomas Müller l'a exprimé ce week-end en disant, nous, on est capable de marcher en avant et très, très largement capable de répondre à cette mission et de battre cette équipe de la Lazio. Mais on a la sensation, nous, au moment où nous parlons, au moment où nous faisons notre tour d'Europe, que ben, le Bayern n'est pas en mode commando, que le Bayern n'est pas hyper concerné et que certains de ses joueurs ben, ne sont pas à la hauteur des missions qui attendent une équipe comme celle-là au printemps.
Alors, tu as parlé de Manuel Neuer, tu as parlé de Thomas Müller. Il y a un troisième cadre bavarois dont on aimerait parler, David, c'est Joshua Kimmich, parce que tu as parlé d'une rupture entre l'entraîneur et certains joueurs. Il apparaît être l'un de ceux qui a été la plus grande victime de l'arrivée de Thomas Tuchel. On l'a vu notamment retrouver une place de latéral droit récemment qu'il n'aime pas beaucoup, euphémisme. Et il y a beaucoup de rumeurs qui circulent au sujet de son avenir. On rappelle qu'il est en fin de contrat en juin 2025, donc que potentiellement cet été sera décisif pour lui. Est-ce que Kimmich veut vraiment quitter le Bayern Munich, comme on peut l'entendre par-ci par-là, ou est-ce que c'est simplement lié à son statut avec Thomas Tuchel?
Bah, c'est un peu entre les deux que ça se joue. Kimmich ne veut pas fondamentalement quitter le Bayern. Il y a d'autres exemples, un peu comme Alphonso Davies aussi, qui font monter un petit peu les enchères. Alors, je ne suis pas en train de dire que Kimmich cherche spécifiquement à faire monter les enchères, mais on a la sensation que c'est un statut de sénateur un petit peu pour des joueurs comme ça, ce qui peut être dangereux dans un club en matière de performance sportive. Kimmich se sent leader, veut être un capitaine, un vice-capitaine, veut obtenir un petit peu les conditions qu'il souhaite. D'autant plus peut-être qu'en équipe nationale, il ne va pas les obtenir. Parce que là, vous avez bien compris que Lionel Nagelsmann, en équipe nationale, le sélectionneur, est en opération commando pour l'Euro. Et Nagelsmann a dit, bah, toi, Kimmich, tu vas être là où tu es le meilleur, c'est-à-dire latéral droit. Et Joshua Kimmich va être obligé de l'accepter, non seulement parce que Toni Kroos revient, mais parce que bah, le pays ne comprendrait pas que les joueurs en fassent à leur tête en vue d'un objectif qui est évidemment de bien réussir son euro chez soi. Kimmich au Bayern a obtenu des garanties et aujourd'hui elles sont remises en cause. Et forcément, derrière lui, il y a toute une influence. Il y a son ami Goretzka, il y a son ami Serge Gnabry, il y a Kingsley Coman et tous ces joueurs-là qui sont affirmés, qui sont des sénateurs, je n'hésite pas à employer le mot, ont forcément un côté frondeur face à un entraîneur quand ils ne sont pas d'accord et c'est assez dangereux. Donc pour répondre à la question Cyril, non, Kimmich ne veut pas forcément quitter le Bayern, mais il veut y rester à ses conditions. Souvenez-vous quand même que Hansi Flick est parti précocement, souvenez-vous quand même que Julian Nagelsmann est parti précocement, que Thomas Tuchel va partir précocement, et tout cela c'est peut-être un peu à cause de joueurs qui n'en font qu'à leur tête. Donc oui, il y a une remise en question, et encore une fois, l'opinion publique en Allemagne ne comprend pas très bien ce comportement. Freddy Bobic, l'ancien directeur sportif de Francfort, qui a été un grand attaquant du football allemand il y a quelques années, s'est exprimé aussi ce week-end en disant, mais c'est incompréhensible en fait l'attitude de ces joueurs-là. Il va bien falloir qu'ils se remettent en cause. Aujourd'hui, on ne peut pas systématiquement critiquer l'entraîneur sur ses choix. Oui, il fait des choix, il fait aussi des erreurs, mais oui, on doit aussi être derrière son entraîneur quand on veut obtenir des résultats. Et encore une fois, on va avoir la réponse là très vite cette semaine. Ce mardi, Kimmich va être sans aucun doute aligné par Thomas Tuchel et on va voir un peu son attitude. Il a posé question, il a remis en question l'entraîneur adjoint Zolt Löw. Vous vous en souvenez, il y a quelque temps où il y a eu une petite altercation dans un couloir de stade. En fait, c'est l'expression de l'incompréhension entre l'entraîneur et son équipe. Ça peut être assez dangereux à court terme sur les résultats qui reste à obtenir, et ça peut être aussi dangereux à long terme si, avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur, pour l'instant qu'on ignore, il y a là aussi une incompréhension. Mais je l'ai déjà dit à notre micro Cyril, simplement, il y a un choix radical à faire pour le Bayern cet été, garder ces grands joueurs qui ont un statut et prendre le risque qu'il y ait toujours des difficultés avec le nouvel entraîneur, ou alors faire un vrai changement, rajeunir l'effectif, prendre des risques sur le plan sportif. Et donc laisser partir les joueurs que j'ai cités, Ça peut être comment? Ça peut être Gnabry, ça peut être Thomas Müller aussi, ça peut être Joshua Kimmich et quelques autres. Et le Bayern, dans ce cas-là, démarrerait une nouvelle ère avec beaucoup, beaucoup d'incertitudes sur le plan sportif.
Il y a un nouvel homme fort qui est arrivé au Bayern Munich, c'est Max Eberl, qui a parlé du cas Kimmich récemment en disant on va s'asseoir et on va discuter ensemble. La première question sera de savoir qui sera le prochain entraîneur. Ça confirme ce que tu viens de nous dire, David. Quelle est la ligne un petit peu du Bayern et de ce nouvel homme fort sur ces sénateurs, justement? Est-ce qu'ils vont avoir un peu un droit de regard sur ce qui va être nommé, ou est-ce qu'on va leur imposer un coach, quitte à remettre en cause leur acquis?
Alors, ce nouveau patron du sportif, ça a du sens, Cyril. C'est un homme, Max Eberl, qui a été joueur du Bayern il y a quelques décennies, qui a montré son amour du club lors de la conférence de presse où il a été accueilli par les deux présidents. Mais c'est aussi un homme à poigne. Il a réussi là où il est passé, notamment à Mönchengladbach. Et Max Eberl, c'est un excellent connaisseur des réseaux sportifs, du recrutement, des vestiaires, du terrain. Donc,
OK.
si le Bayern l'a fait venir, c'est pour remettre de l'ordre aussi dans la hiérarchie sportive. C'est pour qu'il y ait un supérieur à, par exemple, à Monsieur Freund, qui était actuellement le patron, mais avec un petit p du sportif. Et on sait bien qu'il n'avait pas le charisme suffisant pour prendre le dessus sur les joueurs. Pour Max Eberl, qui est un homme puissant, qui est un homme à poigne, on attend côté Bayern que ça remette de l'ordre. Donc c'est une partie de la réponse. Ça veut dire qu'il y a vraiment un patron maintenant dans le sportif, que Salihamidzic ne l'était peut-être pas forcément, que Christoph Freund ne l'était peut-être pas forcément, et que maintenant Max Eberl, qui était attendu depuis des années au Bayern pour remettre justement de l'ordre dans le sportif, va avoir la main sur les joueurs. Mais c'est aussi un homme de discussion, c'est un homme à la fibre très humaine, et il va falloir s'entendre avec les cadres. Il va falloir s'entendre avec les cadres, au premier rang desquels Kimmich. Et s'il n'y a pas d'entente, pas de courant qui passe entre Eberl et les joueurs, à court et à moyen terme, c'est Eberl qui va gagner. Donc ça répond Cyril à la question, et certains seront peut-être partis. On imagine déjà un départ d'Alphonso Davies, le Canadien,
Ouais, cité vers le
peut-être
Real Madrid,
vers l'Espagne,
absolument,
voilà,
ouais.
absolument. Et Kimmich, qui ne manquera pas d'être sollicité, peut-être aussi d'ailleurs en Espagne, suivra aussi s'il n'est pas d'accord avec le tableau qui est présenté par Max Eberl, l'entraîneur nouveau qui va arriver, parce qu'on s'active déjà dès ce week-end, on a commencé à s'activer pour cela. On ne comprendrait absolument pas dans le paysage du football allemand que les joueurs soient les décideurs, alors qu'on a fait précisément venir Cyril, un monsieur qui est un grand nom du foot allemand, un grand directeur sportif, qui est là pour justement remettre de l'ordre.
Eh ben, il va y avoir du grabuge, a priori, au Bayern dans les prochaines semaines. Ça peut commencer dès ce mardi. Face à la Lazio, on suivra évidemment tout ça attentivement. Merci beaucoup, David, pour ton regard sur le Bayern et sur
Avec
la
plaisir.
Bundesliga. On arrive à la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine sur les mêmes plateformes. D'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.